C'est parti.
Bien, donc je vais pas parler longtemps, rassurez-vous. Je suis ravie de vous accueillir toutes et tous, il n'y a pas beaucoup de tous, mais aujourd'hui pour cette journée d'études donc organisée par Aurélie Bruno avec le concours de Johanna Lorilleux qui est au fond là-bas. Vous savez tous et toutes que donc cette journée est organisée dans le cadre de la CIFRE, la convention CIFRE d'Aurélie, hein, qui est donc une forme de bourse de doctorat qui n'est pas très connue ni très habituelle en sciences humaines et sociales, comme je disais tout à l'heure avec Madame Krioff, parce que plus souvent ce sont des bourses qui sont des conventions qui sont passées avec des entreprises, hein, souvent, et c'est plus rare que ce soit avec des collectivités publiques. Et donc on se réjouit que ce partenariat avec l'institution d'Aurélie ait pu se réaliser, hein, et c'est donc grâce à ce financement que aussi cette journée d'études est organisée, donc je voulais le préciser aujourd'hui. Voilà, donc je ne représenterai pas notre équipe en général, hein. Aurélie l'a fait rapidement dans sa présentation de la journée. Ce que je voudrais dire très rapidement en 10 minutes, c'est un petit peu comment, d'un point de vue assez général, les questions qui nous occupent aujourd'hui sont une préoccupation de notre équipe au sens large, c'est-à-dire à la fois équipe de recherche et équipe formative depuis, disons, plus de 10 ans, hein, puisque, en gros, je peux faire remonter à peu près à 1999 le début de nos travaux avec Didier de Robillard, qui est là aussi, autour de ces questions. En fait, quand je dis au sens général du terme, c'est ce que j'appellerais très grossièrement une orientation langue et insertion, pour aller vite, hein, langue au singulier et au pluriel, comme une forme d'axe parmi d'autres, mais d'axe structurant pour la construction et l'évolution d'un certain nombre de travaux de l'équipe et pour une partie aussi des partenariats qu'elle a noués pendant toutes ces années, à la fois pour ses formations avec un certain nombre de professionnels et aussi dans le domaine de la recherche. Alors je vais rappeler rapidement quelques dates et quelques faits qui ont balisé un petit peu ces 12 ou 13 ans, hein. Ça a commencé à la fin donc des années 90 par deux contrats de recherche avec la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Enfin, à l'époque, elle s'appelait seulement DGLF d'ailleurs, délégation générale à la langue française. C'est devenu aux langues de France en plus après. Hein. Deux contrats qu'on a obtenus et qui portait le premier, alors vous me direz c'est peut-être encore un peu loin, mais il y a quand même un lien à mon avis, sur les représentations de la variation du français, et le deuxième sur des questions d'interface de travailleurs sociaux sur des questions de langue justement, hein, entre les personnes avec qui elles travaillaient, et des réflexions qui pouvaient être faites au niveau de la recherche par rapport à ces questions. On a commencé donc par organiser en 2000, dans cette mouvance, un colloque qui s'appelait France Pays de Contact de Langue, qui prenait en compte notamment les usages sociaux, langagiers des populations migrantes, mais pas seulement, hein. Et avec peut-être une petite caractéristique qui va revenir à plusieurs reprises au long de ce parcours, qui est de ne pas séparer ce qu'on pourrait appeler les différents types, entre guillemets, de français, ni de tracer des frontières a priori entre des langues, toujours entre guillemets, parce que cette notion de langue est quelque chose qu'on interroge depuis un moment dans notre équipe. Donc déjà à l'époque, une perspective relativement dérangeante, décalée et qui rompait avec la plupart des travaux antérieurs, en particulier, hein, pour ceux qui connaissent ce domaine-là, les travaux de Geneviève Vermès et Josiane Boutet à la fin des années 80, 87 parution du livre « France, pays multilingue hein, » et l'année d'après, du livre dirigé par Geneviève Vermès, « 25 communautés linguistiques de la France hein, », donc qui montre bien, au contraire, là, la séparation en communautés linguistiques, hein, et chaque communauté linguistique, le premier tome, c'est les langues de France, enfin, je ne me rappelle plus peut-être le titre exact, et le deuxième, c'est les langues immigrées, justement. Hein, et donc, on a cette séparation qui est faite, a priori, entre des langues bien différentes, bien séparées, etc. Et nous, notre perspective, dès le départ, ça a été de ne pas considérer que ces frontières existaient a priori, hein, et qu'au contraire, il fallait peut-être les penser, les réfléchir, les déconstruire, voilà. Donc, suite à ça, dans le domaine formatif, on a ouvert en 2002 un DESS, ce n'était pas encore le LMD à l'époque, il y en a peut-être qui étaient un peu jeunes et qui ne connaissent pas cette histoire, mais donc il y avait des DESS au niveau Bac plus 5, hein, qui s'est appelé finalement gestion de la pluralité linguistique après avoir eu diverses appellations. Dans ce DESS, je disais tout à l'heure, ce DESS a été l'occasion aussi de nouer des partenariats avec un certain nombre de collègues d'autres domaines des sciences humaines et sociales, dont certains sont ici aujourd'hui, comme Hélène par exemple, hein, qui intervient toujours dans notre master d'ailleurs, donc c'est un partenariat qui dure, Hélène Berthelieu, intervention de sociologues, de psychologues sociaux, de différents professionnels, Institut de travail social, centres sociaux, responsables de l'accueil des nouveaux arrivants, etc. Puis en 2004, donc suite à la réforme, hein, d'un master appropriation du français et diversité qui avait un parcours justement intitulé langue et insertion. Suite à ça, il y a eu un certain nombre de travaux, organisation d'une journée d'études en 2007 sur l'accueil, l'insertion scolaire et sociale des nouveaux arrivants, principalement des enfants et adolescents, mais aussi des adultes. Hein. C'est vrai que dans l'équipe, il y a un intérêt plus important, en tout cas en nombre, des collègues qui s'intéressent aux enfants ou aux adolescents ou au domaine scolaire, mais il y a toujours eu aussi cette préoccupation de travailler sur la question de l'accueil et de l'insertion des adultes migrants également. Cette préoccupation a aussi trouvé une forme de réalisation dans un travail de réflexion qu'a dirigé, dont a été responsable Aude Bretenier, qui a travaillé aussi longtemps avec nous et qui a été associée à ces réflexions depuis le début, hein, autour de la question la construction d'un référentiel, de compétences pour les formateurs s'adressant à ces adultes migrants. Donc ce travail s'est mené à partir de 2008 notamment et a débouché récemment, l'année dernière, sur la publication d'un ouvrage collectif, hein, portant justement sur toute la construction de cette réflexion et ce sur quoi elle pourrait déboucher. Alors tout ça, ce n'est pas seulement pour faire la pub pour mon équipe, hein, c'est aussi pour voir qu'il y a une continuité et que ces questions qu'on va, grâce à Aurélie, continuer à travailler aujourd'hui, s'inscrivent dans une continuité, dans une préoccupation, et que c'est des questions qui, à divers degrés et de divers points de vue, nous occupent depuis un certain temps. Et ce que je voudrais dire pour terminer, C'est que on est encore dans ces questionnements avec, bien sûr, vous n'ignorez pas, j'imagine, les questions autour du FLI, français, langue d'intégration, qui agite un certain nombre de collègues, alors peut-être moins dans les domaines de chez les sociologues, mais chez les didacticiens des langues, c'est très, 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 très prégnant depuis à peu près, pas un an, mais pas loin, hein, depuis l'automne dernier, parce qu'il y a eu donc, sous l'égide de la direction de l'accueil et de l'intégration du ministère de l'Intérieur, accueil, intégration et citoyenneté, pardon, du ministère de l'Intérieur, des textes, à la fois, vous le savez ça sans doute, sur le niveau de français demandé pour la naturalisation, mais conjointement à ça, la construction d'un référentiel, appelé donc FLI, français langue d'intégration, dont certains que certains ici connaissent, que certaines connaissent bien, et qui donne lieu, je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais on en rediscutera probablement au cours de la journée, qui donne lieu à un certain nombre de conflits et de polémiques depuis sa création. Alors, donc on travaille aussi, on réfléchit aussi là-dessus. Donc toutes ces réflexions ont donné lieu à un certain nombre de publications de l'équipe, hein, et à la fois des publications collectives et puis des publications bien sûr de plusieurs de ses membres, hein, le premier étant la première publication, j'ai ramené la plus vieille, étant celle-ci, c'est-à-dire un numéro de Langage et Société en décembre 2001, Langue et Insertion Sociale, qu'on a coordonné avec Didier à l'époque. Et dans tous ces travaux, il me semble, quand j'essaye de les relire c'est un peu plus de 10 ans, il me semble qu'il y a quelques constantes que je voudrais rappeler pour conclure. C'est d'une part de considérer que ce que je vais appeler, pour faire très vite, mais je suis d'accord qu'il faut l'interroger, intégration est un processus fondamentalement réciproque, c'est-à-dire, et c'est un des points sur lesquels on a des problèmes par rapport au FLI, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que c'est aux immigrants nécessairement de s'assimiler à ce qui existe avant eux, mais qu'il y a quelque chose qui se construit de manière réciproque. Ça, c'est la première constante qu'on trouvera. La deuxième, c'est que les questions d'ordre linguistique et culturel, qui sont l'essentiel de ce qu'on travaille dans notre équipe, sont très fortement imbriqué avec les questions sociales et ethniques. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui va être discuté aujourd'hui. Et puis, peut-être plus largement, que la migration n'est sans doute qu'un cas parmi d'autres qui pose la question de l'insertion dans un sens plus large du terme, et qu'il n'y a pas lieu de séparer a priori un certain nombre de catégories entre des migrants d'une part et d'autres types de populations d'autre part, hein, ce qui dans notre champ plus particulièrement revient par exemple à dire que on ne sait pas très bien s'il y a une frontière entre alphabétisation ou analphabétisme et illettrisme par exemple, et s'il y en avait une, où est-ce qu'elle se place, hein. Et donc pour ce qui concerne cette actualité plus récente dont je vous parlais, qu'il n'y a sans doute pas lieu non plus de cristalliser une catégorie FLI qui serait spécifique aux migrants. Hein? Ça, c'est une position aussi qui me semble assez partagée dans notre équipe. Les migrants, parce que ça voudrait dire aussi que les migrants, dans ce cas-là, seraient considérés comme une catégorie homogène, ce qu'on ne croit pas du tout non plus à travers tous ces travaux. Voilà, donc je terminerai là-dessus, je vais laisser la parole aux différents intervenants à cette journée, je la reprendrai en fin de journée rapidement. Et donc, bon, l'idée d'Aurélie, c'était justement de réfléchir à comment un certain nombre de domaines des sciences humaines et sociales travaillent cette question de la migration, comment ça contribue à faire bouger justement un certain nombre de notions ou de catégories et comment peut-être dans l'autre sens, mais vous le direz, la migration instabilise peut-être les domaines en question. Alors le problème, c'est qu'on a un espace qui n'est pas très instabilisant.